Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, s'il y a un site archéologique sur lequel tous les paléontologues rêvent de travailler, c'est bien Atapuerca près de Burgos en Espagne, non pas pour sa douceur de vivre ou son charme méditerranéen, mais parce que les fouilles réalisées depuis plus de 30 ans révèlent encore aujourd'hui des informations sur le peuplement le plus ancien de l'Europe occidentale, entre 1 200 000 et 200 000 ans. Nous vous emmenons dans quelques instants au Musée de l'Homme. Une exposition était consacrée aux résultats de ces fouilles. C'était quelques jours avant la fermeture de ce musée. C'est Christophe Falguer, directeur de recherche au CNRS, qui nous emmène à la rencontre d'Homo antecessor, d'Homo heidelbergensis et autres néandertaliens. Christophe Falguer, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la richesse de ce lieu à Atapuerca? C'est parce qu'il recouvre une longue période de l'évolution humaine?
Atapuerca, c'est un ensemble de sites qui recouvre pratiquement toute la période du Quaternaire, c'est-à-dire depuis... le Quaternaire commence environ il y a 1 800 000 ans. Et là, les plus anciens sites qui ont été trouvés à Atapuerca ont été datés récemment de 1 300 000 ans. Et il y a des sites ensuite qui ont donné des datations jusqu'à l'âge du bronze, c'est-à-dire moins de 10 000 ans avant Jésus.
Comment a été découvert le site, qui est donc une grande zone, j'imagine, Atapuerca, j'imagine que c'est toute une région.
En fait, c'est un site composite. On est devant ici un film qui nous montre ce qu'on appelle la trinchera, en espagnol, qui veut dire la tranchée, qui a été creusée à la fin du 19e siècle pour faire passer un train qui emmenait du minerai de la montagne d'à côté pour l'extraction du minerai. Et d'autre part, cette tranchée se trouve dans un immense réseau karstique qui était connu des spéléologues, et les hidalgos de Burgos allaient chercher des dents d'ours au fond de ces grottes profondes et ténébreuses pour faire plaisir à leurs dulcinées. Voilà. Et un jour, dans l'une de ces grottes, ils ont trouvé une mandibule en 1976, une mandibule humaine. Et à partir de là, les fouilles ont véritablement commencé à Atapuerca.
Alors, des mandibules humaines, des hommes qui s'appellent Homo antecessor.
Voilà. En latin, on pourrait dire que c'est l'aventurier, un petit peu. Antecessor a été découvert dans un site dans la tranchée qui s'appelle Grande Dolina. Et de nombreux restes humains ont été découverts ici, appartenant à environ 6 individus, je crois, des jeunes. Et pour les caractères qu'ils présentaient, à la fois modernes de la face et très anciens des dents et de la mandibule, les collègues espagnols ont jugé utile de créer une nouvelle espèce qu'ils ont appelée Homo antecessor.
Leur particularité, est-ce un peuple déjà chasseur ou qui vit encore comme vivent les charognards par exemple?
Alors ça on ne sait pas. Ils étaient en concurrence permanente avec les grands félins, comme le tigre à dents de sabre, comme
la hyène,
le lion des cavernes et comme la grande hyène. Donc c'était une concurrence très très sérieuse. Étaient-ils charognards? Sans doute. Chasseurs occasionnellement. Et ils étaient surtout cannibales, puisqu'on a retrouvé sur les restes humains de la jeune fille de 12 ans à peu près, des stries qui montrait qu'apparemment, elle a été mangée par ses congénères.
Mais dans une optique de subsistance ou dans une optique
pas,
de rituel?
Pas du tout dans une optique rituelle. Hein. C'est struggle for life, si vous pouvez dire.
Nous allons avancer. Il y a parmi les illustrations, les photos, une dent d'une musaraigne, je crois, qui est en face de nous.
Oui.
Alors qui est posée sur la pulpe d'un doigt pour montrer en fait la taille.
Oui.
Musaraigne géante.
Oui.
Et avec une particularité, c'est que je crois qu'il y avait la possibilité d'injecter un venin à travers cette dent.
Oui, sans doute. Et surtout, mais la grande particularité de ce rongeur, c'est qu'elle est très ancienne. Parce qu'on a la possibilité d'étudier l'évolution des rongeurs de façon très précise. Parce que ces petits animaux apparaissent et disparaissent très rapidement et donnent des indications sur le temps relativement précises. Et cette petite musaraigne, cette grande musaraigne, était contemporaine du Pléistocène inférieur, donc antérieure à 1 million d'années. Et les restes humains qui ont été trouvés à la Cima del Elefante, d'où vient également la petite musaraigne, prouveraient que les hommes qui vivaient à Elefante sont encore plus anciens que ceux qui vivaient à 200 mètres à Dolina, d'au moins 400 ou 500 000 ans.
Quel était le climat à cette époque? J'imagine qu'on peut le dater à travers les restes d'animaux que l'on trouve.
On a fait, bien entendu, ce sont des études pluridisciplinaires qui associent des études sur les faunes, sur les microfaunes, sur les environnements, sur les végétaux qui étaient présents ou absents, et bien entendu sur les outils, sur les couches de terrain qui livrent aussi de nombreuses informations concernant les environnements. Alors, 1 300 000 ans, c'était sans doute un climat relativement tempéré et humide, puisque je crois qu'ils ont trouvé également des restes d'hippopotames.
Oui, rhinocéros, hippopotames. Voilà. Nous allons avancer. Alors bien sûr, on voit des photos qui illustrent les fouilles qui se poursuivent toujours.
Ah oui, les fouilles sont toujours très, très actives.
Avec donc différentes strates, j'imagine que quand on creuse, on arrive à différentes couches géologiques, avec, j'imagine, bien sûr, pour chaque couche géologique, une époque bien précise.
Oui, alors évidemment, là, ce sont des fouilles, je dirais, relativement conventionnelles, qui consistent à établir ce qu'on appelle un carroyage, c'est-à-dire un quadrillage dans l'espace pour pouvoir coordonner tous les échantillons que l'on retire des couches. Et chaque couche, bien entendu, a des caractéristiques qui nous permettent de les différencier les unes des autres.
On arrive donc vers une illustration qui montre le cannibalisme dont vous nous parliez il y a quelques instants, des photos aussi qui illustrent les chercheurs. J'imagine que ça ne doit pas être aisé de faire des recherches dans des failles, dans des gouffres, dans les zones comme ça étroites.
Là maintenant, on sait qu'avant il y avait une grotte qui s'est par la suite ouverte. Et là sur la photo derrière les petits enfants, on peut voir exactement ce qui se passe aujourd'hui et comment les fouilles sont organisées. C'est-à-dire que l'on part du sommet et on fouille petit à petit en descendant dans les couches de façon plus ou moins horizontale.
À Grande Dolina, combien de squelettes ont été trouvés?
Alors, à Grande Dolina, il y a plus d'une centaine de restes humains qui ont été trouvés dans une couche. Vous voyez, Grande Dolina est divisée en une dizaine de couches. Et dans la couche qui s'appelle TD6, ont été trouvés une centaine de restes humains appartenant à environ 6 individus humains.
Donc c'est important, j'imagine.
Oui, oui, c'est très important.
Alors bien sûr, on voit des bifaces.
Oui.
Comment ne pas montrer de bifaces dans une exposition consacrée aux hommes préhistoriques?
Alors les bifaces, en fait, apparaissent à Atapuerca dans un site qui est juste à côté de Grande Dolina, qui n'a pas de bifaces, puisque là, on est donc dans une période plus ancienne. Et là, les bifaces apparaissent sur un site qui est à moins de 100 mètres de Dolina et qui s'appelle Galleria, qui est un site un petit peu complexe. Et là, les bifaces apparaissent à environ peut-être 400 000 ans. On n'a pas encore de date très précise ou plus exactement. Les dates qui sont proposées aujourd'hui sont en cours de discussion.
C'est une grotte?
C'est un remplissage qui a été mis au jour par le creusement de la tranchée dont je vous parlais tout à l'heure. Et nous voyons une sortie de grotte qui alimentait sans doute le remplissage. Mais c'était une grotte à un moment donné qui est devenue un abri par la suite.
C'était l'équivalent d'une cuisine puisque j'imagine que le retrouver les restes des animaux avec les outils à côté, donc je me dis que...
Ben oui, c'était un peu la cuisine, sans doute la chambre à coucher aussi, la salle à manger.
En avançant, je crois qu'on va partir à la rencontre d'un autre homme qui s'appelle Homo heidelbergensis, qui ressemble étrangement à l'homme moderne.
Je pense que si on le mettait en costume cravate, qu'on le peignait, qu'on le rasait, je crois qu'il ne passerait pas inaperçu quand même dans la rue. En revanche, Cro-Magnon, oui, mais lui, non quand même. Hein.
Mais il mesurait 1m75.
Oui.
Il était grand quand même, c'était un homme très grand.
Oui, c'était un homme grand. Alors, il a été défini en Allemagne, sur le site de Mauer, à côté de la ville d'Heidelberg. C'est pour ça qu'il a été défini comme Homo heidelbergensis. Et il présente alors des caractères plus ou moins avancés selon les sites, des caractères néandertaliens. Par exemple, à la Cima de los Huesos, qui est l'autre grand site d'Atapuerca, qui est au fond du réseau karstique, dans lequel c'est une chambre funéraire, on pourrait dire, qui a livré plus de 3 ou 4 000 restes humains appartenant à plus d'une trentaine d'individus. Donc ça, c'est la collection la plus fabuleuse et la plus importante qui a jamais été trouvée de cette espèce, et même pratiquement dans tout le domaine de la préhistoire ancienne. Donc, à la Cima de los Huesos, qui veut dire le puits des ossements en espagnol, que des ossements humains, quelques ossements de carnivores, des ours, quelques lions, quelques renards.
Qui sont tombés dans la faille par hasard.
Vraisemblablement, ou qui ont hiberné pour les ours, ou alors qui ont été, par l'odeur alléchée, piégés en quelque sorte. Et pas du tout de grands herbivores qui auraient pu être éventuellement mangés par les hommes s'ils avaient vécu là. Donc c'est vraisemblablement une chambre funéraire dans laquelle les hommes mettaient leurs cadavres.
Homo heidelbergensis, on le trouve uniquement sur ce site-là, à Cima de los Huesos?
Non, alors on le trouve, donc il a été défini en Allemagne, et on le trouve dans un site en France qui n'est pas très loin d'Atapuerca, qui est le site de la Cône de l'Arago, à Totavel, dans les Pyrénées-Orientales. Et là aussi, on a une très belle collection de restes humains d'Homo heidelbergensis, de plus de 120 restes humains appartenant à un bon nombre d'individus.
Cône de l'Arago, cher au professeur de Lumley.
Cher au professeur de Lumley, voilà.
Pour revenir encore un peu sur cet Homo heidelbergensis, donc je disais 1m75, 100 kilos. Alors j'imagine là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de graisse, hein, parce que
non.
Je pense qu'il a beaucoup bougé.
Oui, ça c'est sûr.
Donc
oui.
C'est un homme fort, vigoureux.
Oui, apparemment, oui.
Et quelle est son espérance de vie, les hommes les plus vieux que vous avez pu retrouver?
Alors, ça c'est une question difficile. Je ne suis pas paléanthropologue de formation, mais par exemple à la Cima de los Huesos, qui présente le plus grand nombre de restes humains et d'individus. Je crois qu'il y a un éventail dans les âges, depuis les plus jeunes jusqu'à des hommes ou des femmes de 30 à 40 ans, à peu près, qui étaient quand même assez âgés.
Oui, tout à fait. Et avec une capacité crânienne qui est proche de la nôtre. 1350.
Oui, un petit peu moins grande, je crois.
Oui.
Mais celle des Néandertaliens était plus importante que celle des hommes modernes, par exemple.
L'importance de la capacité crânienne n'est pas forcément un facteur pour se rapprocher de l'homme moderne.
Ben non, c'est juste un facteur qui permet de distinguer les différentes espèces, entre guillemets.
Parmi les objets qui sont représentés, il y a une vitrine avec le bassin d'un homme,
oui.
qui montre en fait que ces femmes, quand c'était des femmes, devaient avoir moins de difficultés pour accoucher, pour donner naissance à leur enfant.
Voilà. Alors, à Atapuerca, à la Cima de los Huesos, bien entendu, l'énorme avantage, c'est que on peut travailler sur 3, 4, 5, 6 bassins, ce qui est exceptionnel. Et donc, on peut avoir une meilleure idée statistique de la configuration du bassin, de la morphologie, etc. Et apparemment, d'après l'observation et l'étude des bassins, il a été remarqué que le bassin était plus large et donc les femmes pouvaient accoucher plus facilement.
Vous avez retrouvé aussi de nombreux crânes. Est-ce que l'on peut savoir justement à travers la forme des crânes, est-ce que l'on retrouve si ces personnes, enfin ces Homo heidelbergensis ou autres, pouvaient parler, en tout cas émettre des sons?
Ils devaient sans aucun doute communiquer. Alors il y a des études, mais sur les Néandertaliens, c'est un petit peu plus récent, qui ont été faites sur les ossements, les tout petits ossements de l'oreille interne et du larynx, l'intérieur de la gorge, qui auraient tendance à montrer qu'ils pouvaient développer un langage et surtout entendre les sons. Après, j'espère et je suis même persuadé qu'ils communiquaient.
Là, il y a un crâne et à côté, il y a une représentation de cire, c'est ça, hein, qui donne l'idée du visage que pouvait avoir cet hominidé. Comment on peut deviner que ce personnage avait certainement une inflammation au niveau de la mâchoire?
Alors, ce crâne, c'est le crâne numéro 5 que les Espagnols ont gentiment baptisé Miguelon, en hommage à Miguel Indurain. À l'époque où ils l'ont découvert, Indurain gagnait les Tours de France les uns à la suite des autres. C'est un des crânes les plus complets qui n'ait jamais été trouvé pour la période. Et si on regardait plus attentivement sur la mandibule, on s'apercevrait qu'il a eu une nécrose très importante de la dent qui montre qu'il a dû beaucoup souffrir de cette infection. Et dans la reconstitution du visage et de la forme du visage qui est basée sur les insertions musculaires, sur pas mal de choses. Donc ils ont représenté cet abcès à une dent qui a dû vraiment le faire souffrir.
Nous allons nous avancer vers un autre visage, pareil, une autre reconstitution. Ce qui est très intéressant, puisque réellement, on peut avoir une idée en fait, hein, de la forme des visages. Quelle est sa spécificité par rapport au dernier visage que l'on a vu à l'instant avec sa nécrose?
Je pense que selon les restes humains qui ont été retrouvés, je crois que le grand fantasme, entre guillemets, des préhistoriens, c'est d'essayer de reconstituer soit les environnements, les paysages. Alors ça, c'est pas trop difficile. Et puis aussi les hommes tels qu'ils étaient. Alors de temps en temps on leur met une pilosité très forte, très grande. Ensuite, bien entendu, toutes les reconstitutions qui sont faites à partir de détails scientifiques. Donc il y a une base et puis après il y a la part, je dirais, de l'imaginaire, de l'imagination et du talent.
Le visage de l'homme que l'on voit actuellement est un africain.
Oui.
Celui qui était juste avant avec sa petite nécrose, sa grosse nécrose,
oui,
était du site d'Atapuerca.
Voilà, c'est ça. Cet homme-là, c'est l'homme de Broken Hill qui a été trouvé donc en Afrique du Sud il y a déjà longtemps au fond d'un puits, d'une mine et qui interroge beaucoup les chercheurs parce qu'il est difficilement classable. Hein? Donc voilà, est-ce déjà un homme moderne, archaïque? Est-ce un Homo erectus? Il y a pas mal de débats concernant cet homme.
Pour terminer l'exposition, il y a donc, vous nous en avez parlé rapidement en parcourant cette exposition, il y a donc une illustration qui évoque justement cette chambre funéraire dont vous parliez, qui vous a permis, vous, de retrouver beaucoup de squelettes. Qui étaient ces hommes? Enfin, comment on peut reconstituer l'enquête? C'était bien sûr de tous les âges. Il y a combien de 28 squelettes qui ont été retrouvés?
32 ou 33,
32,
oui.
D'accord.
Oui, alors là, qui étaient-ils? Pourquoi sont-ils là? On ne sait pas. Mais je regarde là, juste en face de moi, je vois un biface qui a été trouvé, un magnifique biface, qui est le seul biface qui ait été trouvé dans le site de la Cima de los Huesos, et qui pourrait correspondre à une offrande. Et donc, ça pourrait être le premier témoignage rituel de la préhistoire, le plus ancien.
Comment vous pouvez dire que ça pourrait être une offrande?
Alors, on ne peut pas le dire vraiment, mais c'est un biface qui est magnifique, qui est fait dans une très belle texture. Il n'y en a qu'un. Donc, on pourrait penser qu'il n'a pas été taillé ici pour être utilisé. Il a plutôt peut-être été offert en guise de rite. Voilà, c'est ce que...
C'est la rareté et l'esthétique qui...
Et l'esthétique, alors l'esthétique,
dire...
c'est peut-être le fait de notre cerveau, mais bon, c'est un biface, une pièce magnifique, et c'est la seule qui a été trouvée dans le site.
Ce biface était retrouvé dans ce que l'on pourrait appeler la chambre funéraire.
Voilà, dans la Cima de los Huesos.
Dans la Cima de los Huesos. Ce n'est pas une épidémie qui aurait provoqué la mort de toutes ces personnes. Pour le moment, il n'y a rien qui peut le dire, hein, bien sûr.
Une catastrophe naturelle ou... Le grand problème, c'est de savoir s'il s'est passé 15 jours, 100 ans, 1000 ans, entre le premier cadavre et le dernier qui a été déposé. Donc ça, c'est une question. On n'a pas la réponse à cette question pour le moment.
Mais j'imagine que c'est assez rare de retrouver des chambres funéraires à cette époque. C'est le premier.
C'est unique.
C'est unique.
C'est unique, c'est exceptionnel. C'est vraiment le... Je dirais, à Atapuerca en général, c'est vraiment le nec plus ultra de la préhistoire ancienne, quand même, en Europe et quasiment dans le monde.
Christophe Holguer, j'imagine que vous repartez bientôt en Espagne, puisque les fouilles se poursuivent. Donc vous partez à Burgos.
J'y vais fin mars, d'ailleurs, à Atapuerca.
D'accord. Voilà. Vous travaillez sur quel site plus spécifiquement? J'imagine chacun son département, sa zone.
Non, parce que moi je travaille plus généralement sur les premiers peuplements en Europe. Et donc Atapuerca, bien entendu, est un bastion des premiers peuplements. Donc je vais travailler sur la Cima del Elefante et la Grande Dolina. Voilà.
Et donc, vous parliez du musée, parlons-en quand même, de ce futur musée qui va ouvrir ses portes en Espagne, à Burgos, c'est ça?
Oui.
Qui va donc reprendre, j'imagine, toutes les découvertes qui ont été menées à Atapuerca?
Oui, alors c'est plus qu'un musée, hein. C'est un musée, c'est un centre de recherche, et dans ce musée, tous les restes d'hommes, les outils, les restes d'animaux vont être exposés, inventoriés, valorisés, bien sûr, et gérés dans ce musée et ce centre de recherche qui va devenir un des plus grands centres européens de la recherche en préhistoire.
Et de l'ouverture est prévue pour quand?
Je crois que c'est prévu pour l'année prochaine, il me semble, mais je ne peux pas vous en dire plus.
Merci Christophe Holguer de nous avoir donné tous ces détails sur Atapuerca. Et puis nous vous souhaitons alors bonne route pour poursuivre vos recherches et vos fouilles dans ce territoire. Merci beaucoup.